Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Itinérance, au titre peut-être bizarre, mais en même temps chargé d'émotions et chargé de vie, avec Éric Castanet. Bonjour Éric.
Bonjour.
Sortie de route. Alors j'ai envie de vous demander, on la met en singulier ou on la met au pluriel, cette sortie de route?
On va la mettre au singulier, j'espère que ça suffira.
Alors je vous présente comme conteur. Puisque là, d'ici quelques mois, vous allez être sur scène pour compter les patates de 68. C'est le titre que vous avez donné à ce conte. Mais vous avez une vie avec beaucoup de bifurcations, avec beaucoup, mais un fil directeur. Et vous me dites, là, je vis en caravane, j'ai besoin de rien, je ne suis pas connectée. Mais j'ai envie d'aller à la rencontre des gens pour leur raconter ma vie, vos vies, et puis surtout les idées. Vous me disiez une chose très belle, quand je suis prise en stop, c'est pas toujours celui qui demande qui est le plus mal. Donc vous vous sentez une responsabilité dans cette société pour en faire quelque chose de beau.
Oui, exactement. Oh ben, pour en faire quelque chose de beau, moi j'ai un ami conteur il y a quelques années qui m'a dit il faut te poser toujours quatre questions fondamentales. C'est quel est ton rêve? Qu'as-tu fait pour ton rêve aujourd'hui? En quoi ton rêve prendra-t-il soin de la beauté du monde? Voilà. Et ce que je veux dire, c'est surtout que quand on fait de l'autostop, par exemple, dès qu'on sort un peu des grandes villes, que les gens sont moins stressés, il y a de la solidarité. On ne laisse pas quelqu'un sur le bord de la route comme ça. On est vite pris. Et les gens qui s'arrêtent pour nous prendre sont des gens qui ont très envie de parler. Et ouais, bien souvent, je ne dis pas grand-chose. Et c'est eux qui parlent, qui me racontent des histoires que moi, après, je raconte sur scène aussi.
C'est pour ça que vous m'avez dit, bon, je suis conteur. Vous êtes venu déjà à la radio dans Parole aux associations pour parler des gens de la rue et de votre spectacle Invisible que vous avez joué de 2017 à 2021. Donc même s'il y a eu une sortie de route ou des sorties de route, il y a tout de même une continuité dans votre vie. Et vous commencez votre spectacle, vous le commencerez, par une phrase terrible que je vous laisse dire. Le début de votre spectacle.
Ah, le début du spectacle, c'est...
L'enfant qui a été tué,
ouais,
c'est ça?
C'est...
Dites-la mieux.
Vous me prenez de court, là.
Et vous venez de me la dire.
Il y a 55 ans, j'ai tué un petit garçon. Comme on n'a jamais retrouvé le corps, il n'y a jamais eu d'enquête. Je n'ai même jamais été soupçonné. Et puis personne n'a seulement imaginé une seule seconde que j'avais pu tuer ce petit garçon. Peut-être ne manquait-il à personne. C'était en 1968.
Vous aviez 5 ans.
68, j'avais 5 ans. 5 ans. Et je m'ai tué.
Alors, cette mort, c'est la perte de confiance envers votre père, c'est la perte de confiance envers les adultes. Et peu à peu, vous tentez de la retrouver et c'est difficile à ponctuer donc, 55 ans de vie. Et là, j'ai l'impression que vous êtes plus en harmonie avec vous-même. Vous semblez avoir trouvé votre équilibre.
Oui, parce que de temps en temps, on m'offre la possibilité de raconter des histoires sur scène. Et on m'offre une tribune où je peux parler pendant une heure sans qu'on coupe la parole. Alors là, oui, on a l'impression qu'on peut dire les choses. Voilà. Et bon, perdu la confiance en mes parents, oui, c'est évident. Essayer toute ma vie de retrouver cette confiance, je peux déjà vous dire qu'on la retrouve jamais vraiment. Et à travers la quête d'émancipation, de liberté, et il n'y a rien de plus compliqué à chercher la liberté dans la société dans laquelle
actuelle.
On vit. Ouais.
Donc, vous allez conter cette histoire. vous aviez commencé à l'écrire avant le Covid, et puis le Covid a été vraiment une rupture, hein, la société a morflé, si on peut dire, c'est pas trop péjoratif. Et vous avez repris l'écriture après un autre grand choc, dont on n'en racontera pas tous les détails, mais on vous a... Enfin, vous avez appris que vous aviez eu, dès le début, une malformation cardiaque.
Oui.
Que vous avez été opéré en urgence à la limite de la mort. À la limite de la mort. Que vous êtes tombé dans le coma.
Oui.
Qu'ensuite, vous avez fait un AVC.
Oui, dans la foulée.
Dans la foulée, voyons, faisons les choses bien.
Mais j'étais au bon endroit hein, pour faire un AVC. Hein. J'avais les médecins autour de moi, c'était bien, quoi.
Donc, en fait, sortie de route, vous n'êtes pas sortie de route parce que vous êtes revenue. Mmh. Et ça m'a beaucoup interpellée quand vous m'avez raconté cette histoire hors micro. C'est que vous avez beaucoup rêvé pendant ce coma.
Oui.
Et c'est ces rêves, en fait, que vous mettez aussi un petit peu en compte. Et vous souvenez quand vous avez décidé de revenir, en fait ?
En fait, j'ai beaucoup rêvé et je comprends maintenant que quand on est dans le coma, on peut entendre ce qui se passe autour de nous. J'ai eu la chance d'être très entouré. Mmh. J'ai eu la chance que pendant mon coma, on m'a massé, on m'a touché, on m'a chanté des chansons.
Oui, on dit toujours que les gens entendent.
On m'a raconté des histoires. On n'a pas cessé de me parler comme si j'étais là, en fait. Mm-hmm. Et inconsciemment, ben, je crois que ça aide à faire revenir les gens un peu. Mm. Et c'est un des messages, d'ailleurs, que je passe dans mon spectacle, c'est si vous avez quelqu'un de votre entourage. Donc, n'hésitez pas à lui parler, n'hésitez pas à le toucher. On entend, on ressent, on comprend.
Les contacts physiques, sensoriels, c'est très important. Et pas lire une histoire, hein. Vraiment la raconter. Mettre son émotion dedans. Et dans vos rêves, est-ce que c'était votre vie ancienne ? Est-ce que c'était vraiment de l'imagination ? Est-ce que c'était un mélange de tout ?
Je me souviens entendre vaguement parler une radio qui parlait du Festival d'Avignon de cette année. J'entendais vaguement. Mais j'avais l'impression que j'étais ailleurs que là où j'étais, en fait. J'étais dans une autre région. Il y avait des odeurs aussi que je sentais qui me rappelaient d'autres choses, mais toujours d'une vie ailleurs, d'un autre endroit.
Ouais.
Et ça c'est relativement perturbant. J'ai pas mal déliré aussi. J'avais l'impression que je m'endormais dans une chambre alors que je me réveillais dans une autre. Je voyais des rats passer, des souris, des chats passer.
Oui, quand il y a des souris, il y a des chats.
Et forcément. Donc, toute une espèce de truc mélangé dans la tête qui vous habite et qui est là et qui est irréel, complètement irréel.
Et maintenant, vous vous sentez bien physiquement ?
Maintenant, je me sens bien physiquement. Alors, bien sûr, ça fait que 7 mois. Hein. Donc, je remarche. J'ai l'équilibre qui n'est pas très complètement là. Il est encore un peu précaire selon les situations.
Oui, mais vous reparlez tout à fait.
Mais j'essaye de parler parfaitement. Les yeux, ça va mieux. Je refais du vélo encore.
Oui.
Voilà,
un peu. Parce que justement, j'allais venir au vélo. Parce que vous êtes né donc à Thionville, vous avez vécu dans l'Est. Et puis en 1972, donc si vous êtes né en 61, vous aviez 11 ans. Mm-hmm. Vous êtes venu à Fos-sur-Mer avec vos parents. Et là, on vous a offert un vélo.
Un vélo orange.
C'est la liberté.
Et oui, c'est la liberté. Moi qui étais depuis mes 5 ans en quête d'émancipation, là, je trouve un vélo et j'accroche des sacoches. Et tous les week-ends, je pars sur les routes dans les Luberons. Et je passais souvent à Aiguières où là, il y avait toute une communauté de boulistes
qui me voyaient.
Et oui, puis qui me voyaient passer tous les samedis, tous les dimanches. Et bien. Je dois noter aussi que mes parents n'avaient absolument rien à faire de là où je pouvais aller traîner.
Ils ne s'inquiétaient pas. Hein.
Ils ne s'inquiétaient pas. Je partais le matin, je rentrais le soir, ils ne se demandaient même pas où j'étais. Et donc ces boulistes, un jour, m'ont attrapé, m'ont posé sur un banc, posé mon vélo sur un platane et ils m'ont raconté des histoires des forçats de la route, comme on disait à l'époque, les photocopies, des Bartali, et toutes des histoires extraordinaires comme ça. Ils m'en ont mis plein la tête, ils m'ont fait rêver. Je pense que c'est à ce moment-là que les histoires sont rentrées en moi. Voilà. On prie germe, ouais.
Donc, c'est les patates de 68. En fait, vous allez de 68 jusqu'à maintenant, jusqu'à votre coma.
Ben, il s'est passé quelque chose en 1900. Que je ne vais pas dire ici, parce que sinon,
bon, ben,
il faut
non,
venir
sinon, on ne viendra pas.
Il s'est passé quelque chose en 68 qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas être ailleurs que là où je suis.
Voilà. Et ben, c'est, vous voyez, sortie de route, vous êtes re-rentré dans un chemin, je ne vais pas dire le chemin, mais dans un chemin, dans votre chemin.
Ouais.
Et on va écouter le Tricycle jaune, alors qu'il a été écrit et composé par Damien Saez.
Ouais.
Mais on a demandé à Teddy Alain, qui est une conteuse, oui. qui m'a fait que vous rencontrer,
ouais.
Qui a sa propre version. Donc on va écouter le Tricycle jaune par Teddy Alain.
Voilà.
Au gré des vents sur ton tricycle jaune, dans les couloirs de l'hosto, tu tournes, et le vent peut souffler, lui et toi, vous êtes comme une flamme indestructible. Autour du monde, t'iras avec elle, elle te serra la taille, ton Amazone. Toi, t'as pas besoin de Harley Davidson sur ton tricycle jaune. Sur ton tricycle jaune, sur ton tricycle jaune, toi tu l'emmènes, toi tu l'emmènes, toi tu l'emmènes sur ton tricycle jaune. Quand la nuit tombe sur les autoroutes, que tous les gens sans poésie se marrent de te voir pédaler comme un galérien sur ton tricycle jaune. Toi, tu penses aux gens dans le fond du métro qui s'enterrent dans leur propre tombe quand au-dessus des villes vous vous volez sur les ailes du tricycle jaune. Sur ton tricycle jaune, sur ton tricycle jaune, toi tu l'emmènes, toi tu l'emmènes, toi tu l'emmènes sur ton tricycle jaune. Quand l'apocalypse sonnera la fin, que le trafic sera bloqué au péage, il y en aura un qu'on verra passer, ce sera le tricycle jaune. Sur ton tricycle jaune, sur ton tricycle jaune, toi tu l'emmènes, toi tu l'emmènes, toi tu l'emmènes sur ton tricycle jaune. Toi tu l'emmènes, toi tu l'emmènes, toi tu l'emmènes sur ton tricycle jaune.
Alors sur Radio Alliant Plus, cette itinérance avec Éric Castanet, qu'on a intitulée donc Sortie de route, est aussi une quête, hein, est aussi une recherche. Hein. Mmh. Quand on est passé comme vous très près de la mort, hein, qu'on avait deux routes, hein, vivre ou mourir, je pense que Il y a quelque chose qui n'est absolument plus comme avant. Alors, vous m'avez dit que vous avez toujours fait... Enfin, vous avez passé un bac, que vous avez fait... Vous avez toujours fait tout pour vous, en fait, pas pour la société, pas
Exactement.
Pour avoir des diplômes.
Exactement.
Vous avez fait un tas de petits boulots. On va... Ça. Mais... À 47 ans, vous avez décidé d'arrêter de travailler.
Oui, parce qu'à 47 ans, et oui, j'ai décidé d'arrêter parce que voilà, à 47 ans, j'ai fait une rencontre d'un vieux monsieur qui faisait du vélo, qui rentrait du Maroc et qui était chargé comme une brute, qui avait des cornes de taureau devant son vélo. Enfin bref, et il était tout maigre avec une barbe et des cheveux hirsutes. Il remontait chez lui en Belgique. Et moi, je faisais partie d'un groupe de coureurs. Et on l'avait doublé. C'était un hiver en Charente-Maritime à l'époque. Il faisait très froid. J'avais froid. J'étais un peu fatigué. Et je vois ce bonhomme. Et tous, on s'est foutus de lui en le voyant, en le doublant. Et puis moi, je me suis dit, tiens, il est bizarre ce mec. En plus, il souriait, mais vraiment un grand sourire. Alors, j'ai décidé de laisser partir le groupe devant et de faire un petit bout de route avec lui. Et ce monsieur me dit qu'il rentre du Maroc, qu'il est très heureux de passer tout l'hiver là-bas et qu'il venait faire un petit coucou à sa famille, mais qu'il repartirait aussitôt. Et il m'a dit une phrase un jour, il m'a dit qu'il avait quitté ce monde de brutes pour devenir un homme libre. Mmh. Et il avait 50 ans quand il a fait ça. Mmh. Et moi, j'approchais à grands pas de mes 50 ans. J'ai peut-être 3 ans d'avance. 3 ans d'avance. Et j'ai décidé de devenir, entre guillemets, un homme plus libre. Plus libre, parce que est-on vraiment libre? Plus libre à partir de l'âge de 47 ans. Alors, ça veut dire que j'ai décidé de me dépouiller de tous les oripeaux sociaux. Parce que moins on en possède, moins on a de besoins et plus on a de liberté.
Alors, vous avez tenté d'autres voies avant, puisque bon, vous avez été coureur cycliste. Oui. Vous vous êtes marié 2 fois.
Oui.
Vous avez fait à chaque fois 2 enfants.
Oui.
Ça n'a pas marché.
Non.
Mais vous avez des bons contacts avec vos enfants qui sont grands maintenant.
Oui, bien sûr.
Donc, en fait, j'ai l'impression que votre vie, elle est ponctuée par la déception des parents. Mmh. Vous m'avez dit la déception des mensonges, le Père Noël. Hein, c'est un beau mensonge, mais c'est tout de même un mensonge.
Oui.
Après, dans le monde du cyclisme, le dopage qui vous a beaucoup, beaucoup choqué. Donc, le mariage vous a déçu.
Oui, on peut dire ça comme ça.
2 fois.
Non, c'est pas le mariage qui m'a déçu. J'ai jamais vraiment réussi à trouver ma place dans la société.
Ouais.
Je pensais qu'en suivant des institutions telles que le mariage, par exemple, ça allait me remettre dans des rails, mais non, j'ai jamais vraiment trouvé ma place. Même marié.
Des enfants.
Même avec des enfants, et surtout pas avec des enfants. J'adore mes enfants, je les aime beaucoup, j'en voudrais pas d'autres. Hein. Mais franchement, quand toute votre vie est régie par le rythme scolaire, par les obligations. Si on regarde bien autour de nous, c'est les enfants qui gèrent la vie des adultes.
Ouais.
Et ça, j'avais du mal parce que j'ai toujours eu l'impression que j'avais autre chose à trouver, à chercher. J'étais pas à ma place, quoi.
Ouais. Oui, non, mais vous avez l'honnêteté de le dire et vous le racontez. Je pense que quand vous racontez, chacun se dit... Il y a peut-être une petite bribe, il y a peut-être un petit morceau qui dit « Ah, mais ça, moi aussi, je suis comme ça. »
Bien sûr.
Et puis moi, je n'ai pas eu le courage, mais oh, j'aurais bien aimé, mais je ne l'ai pas fait. Donc, on est contraint par toutes ces conventions sociales. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes un peu un écorché vif, en fait, mais en même temps, un libertaire, on pourrait dire.
Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr.
Mais c'est pour ça qu'on a appelé ça « sortie de route ». Et dès que vous m'avez raconté cette opération en catastrophe de votre cœur, vous ne saviez pas que vous aviez un cœur mal fait. On ne vous l'a jamais dit, vous avez été coureur cycliste, vous faisiez du sport, vous buvez pas, vous fumez pas.
Non.
Et votre père meurt en 2022, vous ne l'aviez pas vu depuis 20 ans, et vous faites on révèle votre problème en 2023. Il n'y a pas un lien dans tout ça? Vous n'êtes pas libéré au moment où votre père meurt en voulant mourir vous-même?
Je ne me suis pas libéré au moment où mon père meurt. Je suis toujours très en colère après lui. Mais après coup, on peut voir des liens tout le temps
dans la
vie. Hein, on tricote ça comme on veut, après coup. Mais non, je pense pas, moi, qu'il y ait un lien direct entre son décès et...
C'est tout de même incroyable qu'on n'ait pas vu que vous aviez une valve qui était mal fichue.
Mais c'est souvent le cas. Hein, quand on vit avec une valve qui a 2 feuillets au lieu de 3 feuillets, c'est des morts subites sur les terrains de sport. Très jeune, j'aurais pu mourir 1000 fois depuis. Ouais. Et puis, j'aurais pu mourir quand je partais à vélo sur les routes pendant 3 mois, 2 mois au milieu du désert dans le Maroc.
Oui, vous voyagez beaucoup, c'est vrai. On ne l'a pas dit, vous avez vraiment...
Beaucoup de voyages à vélo. Hein. En fait, la première fois que j'ai vraiment voyagé, je suis parti en stop en 2012 à l'arrache, avec juste un sac à dos sans argent en poche. D'abord, j'avais besoin de faire un break avec tout ça, avec la société, le monde. J'ai vécu dans une toile de tente. Et je voulais aussi démontrer qu'on pouvait voir du pays, voyager et être proche des gens que l'on va voir dans les autres pays, autrement qu'à travers les hôtels et les piscines et compagnie.
C'est ce que j'allais dire, le
et
Club
sans
Med.
Un rond, et sans un rond, ou presque.
Ouais, et à ce moment-là, on connaît vraiment la vraie vie. Et c'est vrai que la société de consommation, maintenant, le tourisme de masse, on sait. Et pourtant, tout le monde rêve d'aller en Martinique, en Guadeloupe.
Ouais.
Oui, bon. Vous allez à votre rythme Et je reviens donc à cette opération, à ce coma, à cet AVC, la rééducation. Mmh. Et puis, vous trouvez l'amour avec Magali.
Oh, je l'avais déjà connue avec elle. Oh, mais moi, cette histoire, oui. Il y a 10 ans, je rencontre Magali, qui me fait rencontrer le comte, dans l'atelier Comte à Saint-Gilles, Maurice Tardieu, à qui je raconte toutes mes histoires de gens de la rue, parce que j'ai travaillé pendant 12 ans avec les gens de la rue. Et donc, on m'a dit qu'un jour, ce serait bien que tu racontes ça, que tu ne le gardes pas pour toi, que tu racontes à plein de gens. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à raconter un spectacle qui s'appelle Invisible, où ce sont des témoignages de vie. Et Magali, donc, on a été ensemble pendant très longtemps, juste après Covid. Où là, ça m'a quand même pas... Parce qu'on parlait de liberté, Covid, on en a été privé.
Et,
donc, on avait fait un break, et puis on ne s'était pas vraiment perdu de vue. Et puis après ce qui m'est arrivé cet été, quand je me suis réveillé, elle était là. Elle était là, et elle me tenait la main, et tout d'un coup, c'était une évidence. C'était une évidence, je ne pouvais pas être ailleurs que là où j'étais, mais... Je ne pouvais pas être quelqu'un d'autre qu'elle-même, de toute façon.
Mais écoutez, c'est un conte, mais c'est votre vie. On n'a pas parlé non plus que vous avez fait 3 ans dans l'armée, en mission humanitaire, avec les gros ventres.
Oui.
Je n'ai pas compris tout de suite que vous parliez des petits enfants qui ont cet énorme ventre parce qu'ils sont affamés.
C'est la malnutrition.
La malnutrition. À votre tour, en 86, c'est la surconsommation qui vous choque.
Je ne trouve pas ma place. En plus, 86, je crois, 85-86, c'est l'arrivée de McDo en France.
Ouais.
Voilà, je n'arrive pas à comprendre les enfants qui font des caprices pour un oui, pour un non, et parce qu'ils n'ont pas la bonne virgule sur le bon t-shirt. Je me rappelle d'une histoire, parce que j'ai bassiné mes enfants, mes premiers enfants, qui sont nés en 87 et 89, avec ça. Et quand ils voulaient un t-shirt avec une marque, je leur disais, mais vous rendez compte, ils avaient 7-8 ans à l'époque, ça, c'est des petits-enfants qui ont votre âge, qui fabriquent ça en Chine. Et je vois ma fille qui prend le t-shirt, qui le regarde dans tous les sens et qui dit, waouh, c'est vachement bien fait pour des enfants. Voilà. Et là, j'ai compris que je pouvais pas leur mettre sur le dos la responsabilité de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde.
Et oui, ils sont petits. Et puis le problème, c'est qu'un enfant jeune, il veut être comme les autres. Donc c'est tout le problème. C'est tout le problème de la pédagogie, de l'éducation. Moi, je sais que je refusais que mon fils aille à l'école en survêtement. Et je me souviens de scènes homériques en disant, mais moi, je veux aller en survêtement. Non, tu n'iras pas en survêtement à l'école. Donc parfois, c'est plus simple d'abandonner, quoi. Et donc,
Oui, on m'a toujours dit, ne cherche pas à convaincre parce que tu n'y arriveras pas forcément. Mais par contre, donne l'exemple tout le temps. Donc vis à ta façon, il y a des gens qui voient comment tu vis et c'est par cet exemple là que tu pourras peut-être leur mettre des petites graines dans la tête.
D'où le fil directeur de cette émission qui est le conte
et le vélo.
Et le vélo,
c'est très lié, les histoires et le vélo sont très liés. D'une part parce que quand on comme moi, je ne pédale pas vite, mais longtemps.
Avec un bon cœur.
Voilà, maintenant. Et des histoires, on s'en raconte plein. Plein dans la tête. Et on voit des gens qui vous en racontent des histoires.
Faut-il encore les écouter?
Mais ça, je crois que je le fais assez bien quand même, écouter des histoires.
Écoutez, vous nous donnez envie d'aller écouter ces patates de 68, ce texte que vous avez écrit, c'est un seul en scène d'une heure.
Oui.
Vous racontez donc de 68
à aujourd'hui.
Maintenant.
Ah ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé en 68 fait que je ne peux pas être ailleurs que là où je suis aujourd'hui.
Donc comme vous voulez être bien sûr libre, indépendant, aucune subvention,
non, pas
donc
besoin.
Vous cherchez encore les salles et on... À Radio Alliance Plus, on fera l'écho, bien sûr, de ces dates. Parce que c'est une belle histoire, c'est une histoire honnête, lucide.
J'aimerais, en tout cas, il y a un point d'honneur que j'aimerais obtenir, c'est être le jour où je suis mort l'an dernier, être sur scène ce jour-là.
C'est-à-dire au mois de...
Le 23 juin. J'aimerais être là, debout, devant les gens et dire, bah voilà.
C'est une célébration, quelque part.
Il y a un an, je faisais ma fête de la musique au fond d'un lit d'hôpital, très loin de tout ça.
Et merci à vous, Eric, de nous raconter tout ça, de le raconter à tout le monde. Et on va finir en musique avec une chanson tirée d'un film, L'herbe tendre, Gainsbourg Simon. Le cul dans l'herbe tendre,
voilà.
C'est votre devise.
Oui, exactement.
C'est votre devise. Mais merci à vous. Et puis, comptez sur nous pour annoncer les dates de spectacle dès que vous nous les donnerez.
Merci bien.
Merci à vous, Eric.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre, le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le cul. Savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. C'est pourtant vrai. C'est vrai, c'est vrai.